Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Borumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce vendredi 22 juillet 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal, suivi d'un commentaire politique. Pour parler de Vienne, l'indécision des États-Unis est l'obstacle le plus important à la conclusion d'un accord lié au PGAC. Déclaration de Téhéran. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que la vengeance pour l'assassinat du lieutenant général Qassem Soleimani relève de la responsabilité absolue du ministère des Affaires étrangères et des autres organisations compétentes. Pour parler de Vienne, l'indécision des États-Unis est l'obstacle le plus important à la conclusion d'un accord lié au JCPOA. Et puis, nouvelle frappe meurtrière aérienne d'Israël sur la Syrie, l'Iran souligne la souveraineté de la Syrie dans le mécanisme d'aide transfrontalière. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que la vengeance pour l'assassinat du lieutenant général Qassem Soleimani relève de la responsabilité absolue du ministère des Affaires étrangères et des autres organisations compétentes. Hossein Amir Abdollahian a déclaré que l'assassinat du très haut général martyr iranien ne sera jamais oublié. Un comité spécial du ministère des Affaires étrangères donne suite à l'enquête judiciaire internationale sur l'affaire de l'assassinat ciblé et le pouvoir judiciaire iranien poursuit également sérieusement l'affaire, a-t-il indiqué. Un ancien ambassadeur iranien auprès de l'ONU a été chargé de suivre l'affaire juridique au niveau international. Le lieutenant général Soleimani, un très haut commandant antiterroriste dont le rôle pour neutraliser Daesh dans la région était crucial, a trouvé la mort lors d'une frappe ciblée de drones américains près de l'aéroport international de Bagdad le 3 janvier 2020. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré que l'incapacité de Washington à prendre des décisions politiques reste le principal obstacle à la relance de l'accord. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a fait ses commentaires quelques jours après que l'Iran a accueilli le président russe Vladimir Poutine. La visite du dirigeant russe a soulevé des sourcils chez certains gouvernements occidentaux, y compris aux États-Unis. L'envoyé spécial américain pour l'Iran, Robert Malley, a déclaré à CNN que Téhéran devrait choisir entre nouer des liens plus étroits avec le Kremlin et revenir dans l'accord nucléaire multilatéral, PGAC. L'Iran affirme que la relance de l'accord multilatéral nucléaire en agonie duquel les États-Unis de Trump se sont retirés unilatéralement dépend de la levée vérifiable des sanctions américaines et des garanties que Washington ne sortira plus de pacte comme il l'a fait en 2018. Téhéran dit qu'il n'est pas maximaliste, mais qu'il recherche un accord fort et durable qui offre également des garanties que l'Iran pourrait utiliser tous les avantages économiques liés au JCPOA et qui font partie des droits légitimes de la nation iranienne, jusqu'ici bafoués. Hossein Amir Abdollahian, ministre iranien des Affaires étrangères, et Mohammad bin Abdurrahman bin Jassim Al-Sani, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, ont discuté des derniers développements liés au pourparlers sur la levée des sanctions contre l'Iran. Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue qatari, Abdollahian a souligné la nécessité pour les États-Unis d'abandonner les exigences maximalistes et d'être réalistes sur la voie de la recherche d'une solution et d'un accord. Tout en réitérant la volonté et le soutien de l'Iran pour parvenir à un bon accord durable et fort, le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné que cela nécessite d'abandonner la cupidité et d'adopter le réalisme de la part des États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères du Qatar a pour sa part salué les positions rationnelles de Téhéran à cet égard. Lors d'une conversation téléphonique lundi 18 juillet avec le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré: la Maison-Blanche devrait mettre de côté les extravagances et les doutes et avancer de manière réaliste dans la direction d'une solution et d'un accord global. Israël a mené une nouvelle frappe aérienne sur la Syrie, tuant 3 soldats et en blessant 7 autres. Le ministère syrien de la Défense a confirmé l'attaque. Il indique que le raid aérien a visé une zone proche de la capitale Damas et a causé des dégâts matériels. Il indique que la défense aérienne syrienne a réussi à intercepter certains des missiles. Le régime israélien lance fréquemment et systématiquement des attaques de missiles sur la Syrie, ciblant principalement les forces militaires et celles de la résistance qui combattent les terroristes soutenus par l'étranger. La Syrie a à maintes reprises dénoncé les actes d'agression israéliens et déposé des plaintes officielles auprès de l'ONU et d'autres organismes internationaux pour violation de sa souveraineté. Damas dit se réserver le droit de répondre à l'agression israélienne. Réagissant aux évolutions syriennes, l'Iran souligne la nécessité de respecter la souveraineté de la Syrie dans le mécanisme d'aide transfrontalière et demande la levée des sanctions contre ce pays. L'ambassadeur de l'Iran aux Nations Unies a souligné le respect mondial de la souveraineté politique et de l'intégrité territoriale de la Syrie dans la fourniture de l'aide humanitaire aux pays arabes ravagés par la guerre, appelant à la levée des sanctions occidentales unilatérales contre Damas. Majid Tartravanchi a fait ses remarques dans une allocution devant l'Assemblée générale des Nations Unies, affirmant que la position de l'Iran sur la question humanitaire de la Syrie est tout à fait claire et que le pays a toujours soutenu les Nations Unies et la communauté internationale dans leurs efforts pour aider la Syrie. Nous avons souvent déclaré que la fourniture d'une aide humanitaire à la Syrie est essentielle et que les circonstances politiques ne doivent pas empêcher d'atteindre les personnes dans le besoin, a déclaré le diplomate iranien. Majid Tartravanchi a déclaré que la République islamique se félicitait de l'adoption récente par l'ONU de la résolution 2642 sur le mécanisme d'aide transfrontalière et l'a considérée comme une étape cruciale pour répondre aux besoins urgents de la Syrie. L'actualité internationale avec les sanctions des États-Unis et de l'Union européenne contre la Russie et qui n'ont pas eu l'effet espéré par l'Occident, les États-Unis tentent désormais de limiter la production et la rentabilité de la Russie sur ses ventes de pétrole en plafonnant le prix. L'annonce a suscité la vive réaction de Moscou qui a promis une réponse sévère. Le Kremlin dit qu'il cesserait complètement de vendre son pétrole, ce qui est un autre signe de façon dont Washington agit sans se soucier des conséquences. Les autorités russes ont déclaré que si les prix du pétrole sont inférieurs au coût de leur production, la Russie n'assurera pas l'approvisionnement en pétrole des marchés mondiaux. Le Kremlin affirme que la situation pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur le marché mondial. Enfin, une nouvelle enquête aux États-Unis montre qu'environ la moitié des Américains pensent qu'une guerre civile se produira dans les prochaines années aux États-Unis. L'étude a été menée par l'Université de Californie à Davis et le California Violence Research Center. L'enquête indique également qu'un Américain sur cinq pense que la violence motivée par des raisons politiques est au moins quelque peu justifiable. Plus de 40% des gens ont également déclaré qu'ils échangeraient la démocratie contre un leader dirigeant fort aux États-Unis. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Pour parler de Vienne, l'indécision des États-Unis est l'obstacle le plus important à la conclusion d'un accord lié au PGAC. L'Iran a lancé une attaque virulente contre les États-Unis pour avoir tenté de lier les relations de la République islamique avec ses voisins au sort de l'accord en agonie de 2015, connu sous le nom du plan global d'action conjointe sur le nucléaire. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré que l'incapacité de Washington à prendre des mesures politiques reste le principal obstacle à la relance de l'accord. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a fait ses commentaires quelques jours après que l'Iran a accueilli le président russe Vladimir Poutine. La visite du dirigeant russe a soulevé des sourcils chez certains gouvernementaux occidentaux, y compris aux États-Unis. L'envoyé spécial américain pour l'Iran, Robert Malley, a déclaré à CNN que Téhéran devrait choisir entre nouer des liens plus étroits avec le Kremlin et revenir dans l'OPGAC. L'Iran affirme que la relance de l'accord multilatéral nucléaire en agonie, duquel les États-Unis de Trump se sont retirés unilatéralement, dépend de la levée vérifiable des sanctions américaines et des garanties que Washington ne sortira plus du pacte comme il l'a fait en 2018. Malgré la patience stratégique de l'Iran pendant un an, après le retrait unilatéral des États-Unis de Trump du PGAC, les signataires européens du pacte n'ont pas pris de mesures concrètes pour préserver et protéger l'accord et remplir le vide, se rangeant par contre du côté des États-Unis. Les efforts pour relancer l'accord en cours depuis avril dernier à Vienne ont été entravés par l'indécision de Washington, comme l'ont déploré à plusieurs reprises de hauts responsables iraniens, dont le président Ebrahim Raïsi. L'Iran et les États-Unis ont organisé 2 jours de pourparlers indirects sous la médiation de l'Union européenne dans la capitale qatarie de Doha à la fin du mois dernier, dans le but de sortir de l'impasse la relance du PGAC. À l'issue des pourparlers, l'Iran et l'Union européenne ont déclaré qu'ils resteraient en contact pour donner suite au dialogue et favoriser la prochaine étape des pourparlers en pause maintenant. Les pourparlers de Doha interviennent suite aux 7 cycles de négociations dans la capitale autrichienne Vienne entre l'Iran et les 5 parties restantes au PGAC, à savoir la Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, depuis avril de l'année dernière. Téhéran dit qu'il n'est pas maximaliste, mais qu'il recherche un accord fort et durable qui offre également des garanties que l'Iran pourrait utiliser tous les avantages économiques liés au PGAC et qui font partie des droits légitimes de la nation iranienne jusqu'ici, bafoués.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat. Le 7e sommet du processus d'Astana s'est tenu mardi soir à Téhéran avec la participation des présidents iraniens, russes et turcs. Dans leur déclaration finale, les trois présidents ont souligné l'impératif du rétablissement de la stabilité en Syrie et la nécessité de la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Ils ont également souligné que le destin et l'avenir de la Syrie devraient être décidés par le peuple syrien lui-même. Avant ce sommet, les présidents turcs et russes ont été également reçus en audience par le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Khamenei, a souligné lors d'une rencontre avec le président russe, en effet, nécessité de faire face aux manœuvres provocatrices de l'OTAN dans la région. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ce sommet tripartite à Téhéran, mais aussi le discours important, les déclarations importantes, en effet, du leader de la révolution islamique lors des rencontres avec les présidents russes et turcs. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Ce mardi soir, le président russe a été reçu par le leader de la révolution islamique. Le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, a reçu en audience le président russe Vladimir Poutine ce mardi soir 19 juillet 2022. Le président Vladimir Poutine est arrivé mardi à Téhéran pour participer à un sommet tripartite avec les présidents iraniens et turcs, Ebrahim Raisi et Recep Tayyip Erdogan, sur le processus de paix en Syrie. Avant la rencontre de Poutine avec le leader de la révolution islamique, les présidents iraniens et russes ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales dans différents domaines, notamment l'énergie et le transit, ainsi que les échanges commerciaux. Le sommet d'Astana s'est tenu à Téhéran quelques jours après la tournée régionale du président américain Joe Biden dans la région. Cela représente largement le poids politique des acteurs régionaux et extra-régionaux dans la nouvelle architecture de sécurité du Moyen-Orient. Haaretz a récemment écrit dans un rapport que l'Iran et le leader de la révolution islamique détermineraient si le voyage de Biden dans la région avait été fructueux ou non. Lors du sommet de Jeddah, le président américain a, d'une certaine façon, promis aux dirigeants arabes du Conseil de coopération de Golfe Persique, CGRI, ainsi que de l'Égypte, de l'Irak et de la Jordanie, que les États-Unis ne quitteraient pas la région en faveur de l'Iran, de la Chine et de la Russie. Mais presque aucun des chefs de pays de la région n'a cru à cette rhétorique du démocrate Biden. Trois points importants se trouvaient à l'ordre du jour du sommet d'Astana. Soutenir et protéger l'intégrité territoriale de la Syrie, combattre le terrorisme, soutenir l'établissement d'un cessez-le-feu dans ce pays. Ces dernières semaines, il y a des spéculations sur une éventuelle opération de la Turquie contre les Kurdes dans le nord de la Syrie, de même que la réduction de la présence militaire de la Russie en Syrie et l'augmentation du poids de l'axe de la résistance dans ce pays, ce qui a certes provoqué les inquiétudes des responsables israéliens à ce sujet, la montée de tensions sans précédent entre Moscou et Tel Aviv. Dans la situation actuelle, les intérêts communs entre Téhéran et Moscou incitent les deux parties à prendre des mesures pour la promotion exceptionnelle des relations politico-économiques et sécuritaires.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter tout de suite nos invités. Nous sommes en ligne depuis Bruxelles avec Luc Michel, géopoliticien, et depuis Damas avec Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique. Maître Develet, bonjour et merci infiniment d'être en ligne avec nous.
Oui, bonjour à vous et bonjour à Monsieur Michel.
Maître Develet, alors quelques jours après la visite du président américain dans la région, une visite qui s'est soldée par un fiasco retentissant, alors le sommet tripartite sur le processus de paix en Syrie s'est tenu à Téhéran. Alors, quel est, dans le contexte actuel des évolutions dans la région, mais aussi des évolutions sur la scène internationale, le message et la portée, en effet, de ce sommet?
Tout d'abord, je dirais à titre préliminaire que les deux sommets, en fait, s'imbriquent l'un dans l'autre. Surtout en matière de consensus sur le refus, que ce soit des uns à Jeddah ou des autres à Téhéran, d'envisager de quelque manière que ce soit l'avenir de la région au travers de déstabilisation et de conflits, et que tout doit passer par le dialogue. Les pays qui étaient présents au sommet du JCC à Jeddah l'ont bien laissé comprendre à Biden. L'administration américaine était complètement isolée. Je n'entrerai pas dans les questions portant sur la production de pétrole, mais en tout cas sur l'avenir de la région. Il a été opposé à un non sans équivoque à Joe Biden quant à tous ses projets d'OTAN arabe, de coalition anti-Iran. Tout ça, c'est clairement mort dans l'œuf. Et partant de là, la réunion tripartite d'hier, si je puis dire, agit comme un prolongement où maintenant il est question, dans un contexte qui est celui des accords d'Astana, le format Astana, de respecter plus que jamais les piliers fondamentaux de ce format, qui sont la désescalade, la négociation politique quant à trouver une solution dans la situation syrienne, et tout cela au travers du respect de la souveraineté territoriale et de la souveraineté syrienne, au sens, bien compris au sens large. Donc maintenant, il restera à voir si le président turc va commencer à, si je puis dire, pencher dans un sens plutôt que dans un autre, au lieu de continuer à jouer le rôle de funambule. Je pense que dans ses intérêts qui sont aussi économiques, et eu égard à son rapprochement avec certains États du Golfe, et pas des moindres, lesquels, encore une fois, ne souhaitent pas du tout voir la région se déstabiliser, et lesquels eux-mêmes sont en train de recalibrer leur politique, non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau international, en privilégiant le développement de liens avec la Russie, qui prend de plus en plus un poids important dans les affaires du monde, mais aussi par rapport aux pourparlers qui ont pu avoir lieu à Bagdad, sous l'égide du premier ministre irakien, entre la République islamique d'Iran et l'Arabie saoudite. On a tous les éléments en place pour ce qui pourrait, et on peut l'espérer, donner lieu à une grande conférence qui permettrait de régler tous les dossiers d'une manière à ce que la région en bénéficie. Le point d'interrogation, c'est effectivement, et vous l'avez souligné en ouverture, cette volonté affichée des États-Unis de rester impliqués dans la région, reste à savoir sous quelle forme.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous, s'il vous plaît, Maître Develet. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Nous avons visiblement un problème de liaison avec Monsieur Michel.
J'entends.
Ah, très bien. Monsieur Michel, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, monsieur. Bonjour, votre invité.
Maître Develet, depuis Damas, l'a rappelé, Monsieur Michel, le sommet de Jeddah et celui de Téhéran qui s'est tenu hier soir, alors s'impliquent l'un dans l'autre, d'autant plus que dans les deux sommets, alors, un grand nom a été apporté aux demandes, aux revendications du président américain. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, justement, selon de nombreux analystes, le sommet de Téhéran pourrait en effet aboutir à des résultats concrets, tant au niveau du rétablissement de la stabilité dans la région que de la restauration de la paix, de la stabilité en Syrie. Alors, si vous établissez, M. Michel, un parallèle entre ces deux sommets, quel serait votre constat? Et puis, concernant les répercussions et les conséquences de ce sommet, à quoi il faudrait s'attendre?
Tout d'abord, la presse française cette semaine a écrit en parlant de l'Ukraine que Poutine était le maître des horloges. Il est aussi le maître des horloges au Proche-Orient. C'est lui qui est l'arbitre de la géopolitique proche-orientale. Le voyage de Biden a été un échec et celui-ci, évidemment, ne maîtrise plus les grands dossiers de géopolitique. Je suis plus réservé sur les sommets, sur le sommet actuel, tout simplement parce qu'il y a un flot de propagande turque qui se développe actuellement et qui prétendrait que la Turquie développerait de nouveaux objectifs de géopolitique. En réalité, la Turquie est toujours la deuxième armée de l'OTAN et elle exerce son activité sous le parapluie de celle-ci. Ce que la Turquie recherche en menant une nouvelle agression contre la Syrie, c'est évidemment, comme la presse d'État iranienne le précisait hier, c'est ouvrir une nouvelle fenêtre de tir à l'OTAN sous le nord de la Syrie et avancer à nouveau vers le démembrement du pays auquel les Occidentaux n'ont pas encore renoncé. Il y a clairement deux camps là-bas. Il y a d'un côté l'axe Téhéran-Moscou, qui est un axe d'entraide, et qui a cette fois-ci dépassé le stade des intérêts géopolitiques, mais qui est un axe fondé sur une amitié fondamentale. Et de l'autre côté, il y a une puissance qui est du côté occidental, comme elle le démontre sur tous les grands dossiers auxquels elle intervient, en particulier en Ukraine et en mer Noire. L'opportunisme de la propagande de Erdogan ne doit pas faire d'illusions. Hier, d'ailleurs, votre presse d'État dénonçait la charlatanerie et les termes d'Erdogan de Roumanie. Elle démontre une géopolitique opportuniste qui est basée sur des coups de poker et qui ne fait nullement de la Turquie un partenaire de la Russie et de l'Iran.
Merci. Monsieur Michel, restez avec nous. Maître De Veller, si vous voulez, revenons alors à cette rencontre entre le président russe et le leader de la révolution islamique. Bien sûr, ce partenariat stratégique Téhéran-Moscou, les intérêts communs des deux pays en Syrie, dans la région, au Caucase, dans la région d'Asie centrale, sur fond bien sûr de guerre en Ukraine, et les manœuvres provocatrices de l'OTAN, des manœuvres qui ont été dénoncées justement lors de cette rencontre par le leader de la révolution islamique. Alors, dans ce contexte, alors ce partenariat est stratégique, quel en sera l'impact sur l'avenir de la région d'Asie centrale, mais aussi sur l'avenir, en effet, d'une solidarité plus accrue face aux velléités expansionnistes de l'OTAN, Maître De Veller?
Écoutez, ça, l'avenir nous le dira, mais enfin, de toute évidence, nous avons basculé qualitativement dans une nouvelle forme de relation renforcée. La relation bilatérale devient maintenant stratégique, ce qui veut dire que les deux pays vont développer des synergies dans plusieurs régions, que ce soit en Asie occidentale, vous l'avez souligné également dans le Caucase, avec cette idée de, en toile de fond, participer de leur côté, comme il se doit, à cette édification de ces nouvelles routes de la soie, puisqu'il a été question dans les discussions bilatérales entre le leader de la République islamique d'Iran et le président Poutine du développement de ce corridor nord-sud qui traversera la Russie, bien sûr, l'Azerbaïdjan, l'Iran, et trouvera son point d'ancrage jusqu'en Inde. Donc tout ça participe effectivement d'une projection à long terme. Vous avez de la chance, j'allais dire, et la Russie aussi quelque part, vous avez des systèmes politiques avec des dirigeants qui s'inscrivent dans la durée, Et c'est comme ça qu'on doit gérer la géopolitique au sens large. C'est sur le temps long et cela nécessite effectivement des décisions courageuses et audacieuses qui permettent d'entrevoir l'émergence d'alternatives au pôle occidental, si je puis dire, finissant.
Merci encore, Maître Develet. Restez avec nous, s'il vous plaît. Monsieur Michel, alors donc, on assiste aujourd'hui à une nouvelle forme de relation entre Téhéran et Moscou, à l'émergence, en effet, d'alternatives, comme disait Maître Develet, qui dépassent, bien entendu, des alliances occidentales actuelles qui augurent de la naissance de nouvelles alliances au niveau international. Quelles seront les répercussions géopolitiques de cette nouvelle forme de partenariat stratégique dans la région, voire dans le monde, Monsieur Michel?
Écoutez, on est cette fois-ci dans un processus de direction vers un monde multipolaire et Poutine, en engageant l'opération spéciale en Ukraine, il a dynamité le nouvel ordre mondial américain né à la fin de la guerre froide en 1991. Il est également en train de dynamiter ce qu'on appelle la globalisation made in USA. C'est un processus fondamental. Il y a un moteur au sein de cet axe. C'est la Russie qui est alliée à l'Iran. Justement, le poids des deux additionnés fait que la Russie aujourd'hui a un poids accru. À noter également que les axes de l'orientation géopolitique de l'axe Téhéran-Moscou s'inscrivent dans la perspective justement des axes de la géopolitique chinoise, de ce qu'on a appelé en particulier le projet des routes de la soie. C'est un élément fondamental et l'Eurasie est en train de redevenir le centre du monde et non plus l'espace atlantique. C'est cela qu'il faut retenir, bien entendu. Les Occidentaux sont partout sur la défensive et l'Eurasie est en action, elle est à l'offensive pour faire basculer le monde dans une nouvelle ère géopolitique.
Merci encore. Maître Develet, sur le plan commercial et économique, tout récemment, le président Poutine a signé alors ce document de stratégie, en quelque sorte, de la Russie pour commercer en monnaie nationale avec la République islamique d'Iran. Étant donné qu'à l'heure actuelle, les deux pays sont soumis à des sanctions occidentales et américaines, comment, en effet, dans quelle mesure cette volonté de part et d'autre de faire des échanges en monnaie nationale pourrait contribuer, en effet, à sortir d'abord dans les relations entre l'Iran et la Russie, mais aussi la Chine, et dans un sens plus large, au niveau régional et international, pourrait contribuer à sortir de l'emprise du dollar?
Je dirais que c'est fondamental. Mais gardons à l'esprit, encore une fois, que la République islamique d'Iran a été, si je puis dire, affectée par les sanctions unilatérales américaines depuis plus de 40 ans. La Fédération de Russie elle-même subit les sanctions américaines depuis 2014. Autant des plans de contingence ont été mis en place de façon à être complètement autonome et de ne pas dépendre justement de quoi que ce soit qui pourrait dériver de ces régimes de sanctions. Ce qui fait que non seulement, comme soulignait Luc Michel, le résultat de ces sanctions ineffectives font que le centre de gravité du monde est maintenant en train de se déplacer vers l'Est, au cœur de l'Eurasie, si on réfère au géopoliticien Mackinder. Et donc, c'est maintenant effectivement le centre-monde qui est en train de prendre contrôle de son destin et la thalassocratie anglo-saxonne qui, elle, est en train de se retrouver aux marges. Alors, est-ce que c'est inéluctable? C'est inéluctable seulement pour ceux qui ne veulent pas voir le sens de l'histoire. Il y a toujours possibilité pour la thalassocratie de jouer un rôle positif, pour peu que les acteurs les plus rationnels au sein de ces établissements puissent commencer à accepter la réalité pour ce qu'elle est et non pas s'accrocher à des lubies nostalgiques. Mais toujours est-il que la République islamique d'Iran et la Russie maintenant ont d'ores et déjà mis en place tous les mécanismes qui leur permettront d'augmenter le volume de leurs échanges, que la Chine a pris les mêmes dispositions, que tous les dispositifs ont aussi été mis en place pour contourner ces sanctions depuis maintenant un certain nombre d'années, qu'on a vu que rien n'empêchait la République islamique d'Iran, par exemple, d'exporter son pétrole au Venezuela, et que partant de là, si je puis dire, la dynamique est enclenchée et rien ne pourra l'arrêter, quoi qu'on puisse en dire.
Merci encore. Une toute dernière question à M. Michel. Monsieur Michel, dans cette nouvelle ère multipolaire qui s'avère prometteuse, alors cette volonté des deux pays, Téhéran et Moscou, en effet, de commercer en monnaie nationale, alors quel sera son impact sur la neutralisation des sanctions d'une part et d'autre part sur le processus, en effet, de dédollarisation du commerce international?
Justement, la clé du nouvel ordre économique mondial, c'est la dédollarisation du monde et la présence des Américains à dominer l'économie mondiale avec le dollar. Qu'est-ce que c'est la globalisation américaine? C'est en fait le schéma typique de l'économie coloniale. Il y a une économie centrale qui est celle du continent nord-américain. Il y a des économies périphériques qui s'orientent autour de celle-ci au profit de l'économie coloniale centrale. Justement, Poutine a parfaitement compris que la clé de voûte d'un nouvel ordre économique mondial, c'était de dédollariser le monde. L'histoire retiendra que, justement, ce sont les Américains eux-mêmes qui ont mis ce processus en marche avec leur politique des sanctions qui vise à la fois l'Iran, à la fois la Russie et à la fois leurs alliés. Il y a aujourd'hui un axe de pays sanctionnés qui s'oppose à la dollarisation du monde. C'est un effet boomerang étonnant que les Occidentaux n'attendaient absolument pas il y a 120 jours. Il y a d'ailleurs un phénomène qui intervient au sein du clan occidental. Ce sont les manœuvres de diplomatie secrète dans la coulisse d'ailleurs pour renoncer à des pans entiers de ces sanctions et rétablir le dialogue avec la Russie. C'est dans cela qu'il faut souligner le dialogue d'Astana et le sommet de Téhéran. Je n'ai pas d'illusion, comme je vous l'ai dit en tête de cette émission, sur le fait que la Turquie est à cheval de trop occidental. Mais en étant là, évidemment, elle contribue à fracturer le camp occidental lui-même, qui était d'ailleurs, dès le début du processus d'Astana, le but de Poutine et de Lavrov. Il faut retenir, évidemment, ces mouvements géopolitiques ont été préparés il y a longtemps, qui ne datent pas, comme les Occidentaux nous font croire, d'il y a 130 jours au début de l'opération spéciale en Ukraine. Mais ce sont des phénomènes, par exemple, la guerre des hydrocarbures, du pétrole, du gaz, a commencé en septembre 2015, et la fracturation du bloc occidental a commencé en 2018 avec le processus d'Astana.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, Maître Arnaud de Velay, juriste international et analyste politique depuis Damas. Merci infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup.
À bientôt.
À très bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Que l'Occident collectif et plus particulièrement Washington avait vivement souhaité faire basculer l'Inde dans le camp occidental, New Delhi démontre que son agenda n'est pas celui de l'Occident. une démarche indienne souveraine qui ne fait que renforcer l'axe de la multipolarité. L'Inde a reproché aux États-Unis d'avoir suggéré directement aux autorités portuaires de la ville de Mumbai une interdiction d'entrée de navires russes. Les autorités indiennes ont rappelé avoir le droit souverain de traiter avec tous les partenaires mondiaux. L'indécence états-unienne a été vivement critiquée, aussi bien au niveau du ministère indien des Affaires étrangères qu'au niveau de l'opinion publique du pays. Évidemment, cette nouvelle tentative d'intimidation de la part de Washington à l'encontre de New Delhi n'est pas le fruit du hasard. Après l'échec de faire éloigner la Chine de la Russie et de créer un large front international anti-russe, de même que la perte de plus en plus évidente quant à l'influence sur les alliés d'hier, l'Occident n'a plus peur du ridicule pour tenter à donner l'impression de ne pas couler, y compris si cela ne fait que ridiculiser un peu plus sa posture. Mais la retenue et un minimum de honte ne sont pas des caractéristiques de l'establishment occidental. Ces notions sont totalement absentes de sa manière à penser. Et si l'Inde est aujourd'hui dans le viseur atlantiste, ce n'est pas seulement en raison du fait que le pays achète beaucoup de pétrole russe, avec pour la seule demi-année en cours déjà plus de 60 millions de barils achetés à la Russie contre 12 millions pour toute l'année 2021. Les autres raisons étant que depuis toutes ces dernières années, l'Occident collectif avait fait des pieds et des mains pour tenter à faire intégrer l'Inde dans son camp et de l'éloigner au maximum de la Russie comme de la Chine, pour au final devoir faire face à un énième échec cuisant. Ce n'est pas tout. L'establishment politico-médiatique occidental tente par tous les moyens de présenter l'affrontement final actuel entre les partisans de la multipolarité et les nostalgiques de l'unipolarité comme celui de l'axe autoritaire face aux démocraties occidentales. Des pseudo-démocraties occidentales qui avaient tellement besoin de la véritable et la plus grande démocratie du monde, en l'occurrence la République de l'Inde, ne serait-ce qu'au moins symboliquement à faire partie de leur bloc, dans l'objectif à redorer le blason des fausses démocraties de l'Occident. Échec également. Enfin, et là, nous parlons de géopolitique et de géoéconomie, l'Inde faisant partie des BRIC comme de l'Organisation de coopération de Shanghai. L'objectif occidental a toujours été de tenter d'affaiblir ces deux grandes organisations, représentant la véritable notion de communauté internationale, non pas celle à la sauce G7, et qui aujourd'hui inquiète vivement les Occidentaux, ou du moins ceux résolument nostalgiques de l'ère unipolaire. Mais les arrogants extrêmes de l'Ouest semblent oublier une fois de plus à qui ils ont affaire. Cela est d'autant plus choquant dans le cas lorsque le consulat d'un État de facto, sans histoire, culture ni civilisation digne de son nom, s'adresse ouvertement à une administration intérieure d'un pays souverain à la civilisation millénaire et troisième puissance économique mondiale en termes de PIB à parité du pouvoir d'achat par la même occasion, sous prétexte que les décisions prises aux États-Unis et en Occident sont censées avoir une portée prétendument universelle. Si les échecs de Washington et de ses suiveurs européistes, australiens ou encore canadiens sont une fois de plus fort démonstratifs de la phase très importante et intéressante de l'histoire contemporaine mondiale que nous vivons en ce moment, il n'en est pas moins que l'Inde devra fermement renforcer sa sécurité vis-à-vis des interférences occidentales, pas tellement politiques dans le cas indien, mais beaucoup plus précisément sécuritaires.
parole d'experts.
Les députés belges ont ratifié mercredi soir un traité belgo-iranien sur le transfert de condamnés, défendu par le gouvernement qui l'a présenté, comme le seul moyen de faire libérer un travailleur humanitaire belge, otage depuis 5 mois à Téhéran. Le texte avait déjà été approuvé en commission le 6 juillet. Est-ce une marche arrière occidentale face à l'Iran ? La Belgique ou encore son voisin français cherche-t-elle ainsi à trouver un échappatoire aux sanctions ?
C'est plutôt une naïveté. C'est-à-dire que la Belgique, comme la plupart des pays occidentaux, elle croit qu'elle peut gifler les autres pays et violer les lois internationales. Elle croit qu'elle peut s'attaquer à l'Iran ou s'attaquer à la Russie et ne pas en subir des conséquences. C'est vrai que la Belgique, à partir du moment où elle a violé les lois internationales et montré une hostilité envers l'Iran, elle est devenue une cible. Rappelons-nous ce qu'est le procès d'Anvers. C'est un diplomate iranien en poste en Autriche qui, lors d'un déplacement en Allemagne, est arrêté et remis à la Belgique. Il est jugé par les tribunaux et condamné, alors qu'il a l'immunité parlementaire pour vis-à-vis des conventions de Vienne. On se rappellera d'ailleurs que l'immunité diplomatique, elle ne vaut pas seulement dans le pays où on est en poste, mais dans les pays qui sont traversés par un diplomate. C'est donc un scandale, évidemment. Il y a eu des mesures de rétorsion. Ceci a donné lieu à la modification de la loi belge et à l'adoption d'un traité avec l'Iran. Ce traité a donné lieu d'un scandale international et à un débat très vif au Parlement. Et ça a révélé une fois de plus, une fois encore, l'existence d'un puissant lobby anti-iranien constitué par les soi-disant moudjahidines du peuple et les monarchistes. Non seulement ils peuvent s'exprimer dans l'espace public, ils ont des relais au Parlement et dans la presse, mais en plus de cela, ils ont quasiment un monopole de l'expression dans les médias européens, notamment sur France 24, la RTB, Euronews ou encore Arte, où les monarchistes, les partisans de l'ancien chef d'Iran, Reza Pahlavi et de son fils, mais aussi les partisans des moudjahidines du peuple, ont un quasiment monopole d'expression. C'est eux qui jugent l'Iran et qui développent des thèmes anti-iraniens. C'est plus évidemment une prise de conscience et de réalisme par la diplomatie belge et évidemment les Français, puisque l'affaire d'origine, c'est une plainte française contre un soi-disant attentat lors d'un congrès de l'opposition iranienne à Villepinte, à côté de Paris, qui a déclenché toute l'affaire. Évidemment, les Américains ne sont pas contents, mais ici, les pays européens voient évidemment la défense de leurs intérêts et de leur population. C'est-à-dire que les Européens sont fragmentés. Il y a un camp atlantiste qui est constitué principalement par les dirigeants de l'Union européenne et de la Belgique, puisque c'est un gouvernement pro-atlantiste, anti-iranien et pro-sioniste. Évidemment, ces gens sont pour une confrontation avec l'Iran, comme ils sont pour une confrontation avec la Russie. Mais il y a des milieux, par contre, des milieux d'affaires, des milieux industriels, des milieux économiques, qui se rendent compte que la position vis-à-vis de l'Iran et la position vis-à-vis de la Russie, parce que les deux dossiers sont liés, c'est un suicide économique et un suicide géopolitique. Et ces gens-là sont pour qu'on trouve une solution. On se rappelle par exemple que sur la pression des Américains, les Français par exemple, puisqu'ils sont typiques de la position européenne, ils ont dû quitter l'Iran. Peugeot, par exemple, a quitté le marché de la voiture en Iran et Total a quitté les marchés pétroliers iraniens qui ont été remis et accaparés par la Chine. C'est la même chose en Russie où Renault, dont c'était le principal marché extérieur français, a dû abandonner ses positions en Russie. L'usine Renault vis-à-vis de Moscou a été reprise pour 1 euro par la municipalité de Moscou, qui va relancer une marque de l'époque soviétique de voitures, les voitures Moscovitch. Dès lors, évidemment, ces milieux industriels et économiques européens veulent s'arranger et quitter la politique de sanctions, que ce soit vis-à-vis de l'Iran ou vis-à-vis de la Russie. On verra bien qui va l'emporter, le réalisme des intérêts européens ou l'idéologie et les intérêts atlantiques.